8h23 à Paris, bien sûr. Bonjour Norbert Navarro.
Bonjour Nathanaël, bonjour à tous.
À la une de la presse française, la grève sans fin. Les négociations entre syndicats et gouvernement reprennent aujourd'hui en France après la nouvelle journée d'action hier contre le projet de réforme des retraites.
Oui, après la mobilisation hier en France, place en effet aujourd'hui à la convention sur le financement du système des retraites, comme le résume le journal Le Midi Libre. Un jour, on manifeste, le lendemain, on négocie. Depuis 5 semaines, la France est entrée dans une valse politique à 2 temps. Alors bon, on connaissait la valse à 3 temps, voire la valse à 1000 temps, mais la valse à 2 temps, voilà qui est nouveau.
Ainsi c'est beaucoup moins dansant, n'est-ce pas?
Absolument. Et pendant ce temps, les jours passent. 36 jours de grève déjà et le quotidien La Voix du Nord le souligne. Le mouvement social opposé à la réforme des retraites est déjà la plus longue grève ininterrompue depuis 1968. Alors après 36 jours d'un mouvement qui fait déjà référence en matière de lutte sociale, le quotidien La Charente Libre pose la question « Comment en sortir ?» Or, l'ampleur des cortèges d'hier autorise les syndicats opposés à la réforme à croire que la mobilisation trouve un second souffle. C'est par où la sortie, s'impatiente le Parisien. La 4e journée de mobilisation contre le projet de réforme des retraites hier s'est soldée par un statu quo et la situation est de plus en plus tendue. C'est en tout cas usant pour les nerfs, déprimant pour les commerçants, angoissant même pour les grévistes, souligne de son côté Ouest-France. Le bras de fer sur la réforme des retraites se poursuit, sans sortie de crise pour l'instant. Libération n'écrit pas autre chose. Ce conflit des retraites tourne au bras de fer sans fin, car l'impasse semble totale. Et Libé se demande si le gouvernement n'a pas choisi une posture franchement irresponsable, jugeant que la position gouvernementale a quelque chose d'incompréhensible. Alors ce quotidien prévient, si rien ne change, le scénario noir est déjà écrit. La grève se poursuit en terre inconnue, le gouvernement reste impavide. S'il obtient le chaos final, il aura rejeté dans l'humiliation l'ensemble du syndicalisme français. Et s'il perd, il terminera le quinquennat dans les cordes, incapable de réformer plus avant, résume donc Libération. De son côté, dans un entretien au journal Le Figaro, le ministre de l'Action et des Comptes Publics dit qu'un compromis rapide et satisfaisant pour tous est possible. Il est à portée de main, assure Gérald Darmanin.
Toujours en France, les élections municipales de mars prochain, à présent avec une candidature à Paris, celle de Marlène Schiappa, en attendant celle d'Agnès Buzyn.
Oui, selon le Parisien, en effet, la ministre de la Santé a topé avec Benjamin Griveaux à Paris. Agnès Buzyn figurera sur une liste parisienne pour les municipales, annonce ce journal, sans préciser dans quel arrondissement ni à quelle position sur la liste. Quant à la secrétaire d'État à l'égalité homme-femme, elle confirme dans ce même journal sa candidature pour soutenir Benjamin Griveaux. Dit à ce quotidien Marlène Schiappa, qui sera donc bien sur la liste du candidat officiel de La République En Marche, dans le 14e arrondissement de Paris, la même où le candidat dissident de La République En Marche, Cédric Villani, est tête de liste. Mais c'est à présent à Biarritz, sud-ouest de la France, que se dessine un nouveau duel fratricide au sein de la majorité. Le Parisien, encore lui, signale que le ministre de l'Agriculture, Didier Guillaume, demain, va présenter sa candidature à la prochaine élection municipale dans cette ville de 25 000 habitants où un autre membre du gouvernement, le secrétaire d'État aux Affaires étrangères, Jean-Baptiste Lemoyne, sera présent sur la liste du maire centriste sortant, élu du parti Modem, allié de la Macronie. Soit, comme le souligne le Parisien, la perspective d'un duel fratricide entre deux personnalités qui voisinent à la table du Conseil des ministres. Ambiance.
Ces révélations à présent sur l'attaque au drone qui a coûté la vie au général Qassem Soleimani.
Selon le Figaro, durant l'après-midi du jeudi 2 janvier, une équipe d'Américains s'est rendue à l'aéroport de Bagdad pour désactiver les radars civils. Un spécialiste en aéronautique dit à ce quotidien que les Américains ont probablement voulu débrancher les mémoires des radars pour effacer toute trace de leurs tirs de drones. Ce journal précise que les radars civils de l'aéroport de Bagdad ont été livrés par la société américaine Raytheon. Étant rappelé que c'est un drone Reaper qui a été utilisé pour éliminer Soleimani, Le Figaro évoque deux options sur son décollage, le Koweït ou, plus vraisemblablement, le Qatar, qui abrite la plus grande base américaine au Moyen-Orient, d'où décollent généralement les drones américains.
En Australie, enfin, ça n'est pas la grève qui est sans fin, c'est la catastrophe. Les incendies là-bas durent depuis maintenant 3 mois.
Comme l'a dit un professeur d'université de Sydney et que le journal La Croix reprend à son compte, l'Australie est-elle le canari au fond de la mine ? Vous savez, cet oiseau que les mineurs emportent avec eux et qui, s'il advient qu'il meure dans sa cage, signale ainsi la présence d'un gaz inodore, mais terriblement dangereux pour les hommes qui évacuent alors aussitôt la mine. Cette affaire en Australie est la nôtre, pauvres ou riches, sermonne le quotidien catholique français. Les canaris sont morts. Il faut sortir de la mine. Et là encore, signe des temps, les préoccupations changent comme les temps de la valse, ainsi que le remarque le Figaro. Il y a 30 ans, l'émotion internationale se portait sur les catastrophes humanitaires. Aujourd'hui, signe des temps, ce sont les catastrophes écologistes qui nous saisissent.
Merci Norbert Navarro, restez avec nous.